Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 11 mars 1811, la flotte française fait naufrage sur l'île de Lissa. Au début de l'année 1811, en Adriatique, l'île de Lissa, aujourd'hui Vis, en Croatie, sert de base aux frégates et corsaires anglais qui entravent le commerce maritime français. Pour Napoléon Ier, la situation est intolérable. Il ordonne de constituer une division navale à Venise, de s'emparer de Lissa et d'y établir une base française. Pour conduire cette opération, le ministre de la Marine, Denis de Cresse, met le capitaine de vaisseau Bernard Dubourdieu à la disposition du prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie. La flotte franco-italienne se compose de 3 frégates françaises, de 44 canons, la Favorite, navire amiral, la Danae et la Flore, mais aussi de 3 bâtiments placés sous pavillon italien. La frégate Corona, accompagnée des corvettes Bellona et Carolina. Quelques navires auxiliaires complètent le dispositif. À bord se trouve une force de débarquement commandée par le colonel Alessandro de Reghe di Giflinga, aide de camp du prince Eugène. Elle compte 570 hommes. Le 11 mars, à 23 heures, la formation appareil du port d'Ancône. Le lendemain, en fin de journée, elle est à une vingtaine de milles nautiques de Lissa. Le 13 mars, à 2h30, des navires sont signalés à proximité de la flotte franco-italienne. Au lever du jour, une force anglaise se découvre sous le vent. Elle est dirigée par William Hoste, un brillant officier de 31 ans, disciple de l'amiral Nelson. À 8 heures, la frégate Favorite donne le signal du combat. Elle tente de couper en deux la ligne ennemie. Au moment où le navire français arrive sur la frégate Amphion, où se trouve Hoste, une puissante décharge d'artillerie balaie le pont sur lequel sont regroupés les hommes destinés à monter à l'abordage. Dubourdieu est tué par une décharge d'obusier. À 11 heures, la Favorite s'échoue sur la pointe sud-est de l'île de Lissa. Le colonel Giflinga prend le commandement du bâtiment français. Le combat naval continue en ordre dispersé. Le capitaine Jean-Alexandre Péridier, qui dirige la Flore, perd son bras gauche. La corvette Bellona et la frégate Corona tombent entre les mains des Anglais. Les bâtiments britanniques se dirigent vers la Favorite qui riposte à leur feu avant d'être incendiée par son équipage. Le colonel Giflinga évacue les blessés puis débarquent les troupes sur Lissa. Avec une centaine d'hommes, ils marchent sur le port de Saint-Georges, capitale de l'île. Les Français s'emparent d'un modeste bâtiment et rejoignent l'île voisine de Lésina. Les autres frégates attaquent les Anglais sans succès, subissant d'importants dommages. À la fin de la journée, la Flore et la Danae se réfugient à Lésina, où les rejoint la corvette Carolina. La division franco-italienne compte 700 hommes hors de combat. Les Anglais ne déplorent que 45 tués et 145 blessés. Touché au bras, Hoste refuse de quitter le pont de sa frégate avant la fin du combat. Napoléon affirmait « J'ai des vaisseaux, mais je n'ai pas de marine ». Paradoxalement, il semble peu affecté par l'échec de Lissa. En effet, le 20 mars, sans un coup de canon, annonce la naissance de l'Aiglon, le nouvel espoir de l'empereur. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour, trois livres préparés par Emmanuel et que je vais vous présenter. C'est Claude Nougaro, le poète qui nous accompagne en chanson avec peut-être son plus grand succès. C'était en 1967. Il chante sa ville, Toulouse.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école, mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, concoctés par Emmanuel. Nous commençons par le livre de Christina Baker Crane, publié aux éditions Belfond, Le pays au-delà des mers. Nous voici dans la Tasmanie coloniale de l'ère victorienne, sur les traces de ces femmes de mauvaise vie exilées par la couronne britannique. Pour avoir naïvement cru aux promesses d'amour de son employeur, Evangeline, jeune gouvernante anglaise, a été accusée de vol et condamnée à la déportation. Sur le navire qui l'emmène en terre australe, elle pense à ce que sera sa vie dans le pays au-delà des mers, qu'on dit si inhospitalier, peuplé d'indigènes et de renégats. Elle pense aussi à l'enfant qu'elle porte, mais le destin sera particulièrement cruel pour elle. Au même moment, sur l'île Flinders, au large de l'Australie, Matina, une orpheline aborigène, est retenue prisonnière. Arrachée à sa tribu, la petite a été adoptée par le gouverneur et son épouse qui entendent bien la civiliser à tout prix. Finalement, ces trois femmes se retrouveront dans La fille d'Évangeline. Ce roman est inspiré, je tiens à le préciser, de faits réels. Le pays au-delà des mers de Christina Baker Crane, c'est aux éditions Belfond. Les idéalistes de Christopher Jansma aux éditions du Cherche Midi. Un jour de désœuvrement, un jeune professeur d'université au chômage pousse la porte d'un bureau ordinaire et voit sa vie changer à tout jamais. En quelques instants seulement, il passe de l'apathie à la passion, de l'hésitation au risque, de la timidité à la flamboyance. Dans cette pièce sans âme se trouve en effet Waldo Woodson, le responsable des discours de la députée latino-américaine Teddy Ruiz. Cultivé, imprévisible, fascinant, Woodson est l'un de ces hommes qui bouleversent irrémédiablement les règles du jeu, qui réclament toujours plus de l'existence au risque d'y perdre leur santé, mais jamais leur temps. Véritable génie du verbe, puis de science sur la politique américaine, il entraîne le nouveau venu dans la campagne électorale dont il est l'éminence grise. Ensemble, ils rédigent les discours et tissent une amitié faite d'admiration et de rivalité. Mais Waldo Woodson dissimule des failles, des désillusions et un secret qui le ronge. C'est la démocratie américaine qui nous est relatée par ce roman. Les idéalistes de Christopher Jansma s'est publié aux éditions du Cherche Midi. Et nous terminons cette chronique et par là même cette émission avec Musée Marilyn de Anne Savelli aux éditions Inculte. Depuis le cliché fondateur pris par David Conover en 1944 ou peut-être 1945, montrant une ouvrière de 18 ans du nom de Norma Jean Baker, jusqu'aux sordides photos volées à la morgue en août 1962, Marilyn Monroe n'a cessé d'attirer l'œil des photographes. C'est un musée imaginaire, mais fondé sur le réel qui nous est proposé ici. Musée Marilyn nous propose en effet une approche totalement inédite de l'actrice américaine la plus iconique du XXe siècle. S'appuyant sur une précise et complète documentation, Anne Savelli, qui a structuré son livre comme un musée vivant, sensible, quasi animé, nous raconte enfin un être de chair et de sang, et non un fantasme de papier glacé. Au fil des rencontres avec ceux et celles qui l'ont prise en photo, André de Dienès, Eve Arnold, Milton Green, Cecil Beaton, Richard Avedon, à force de scruter les instants tragiques ou magiques qui donnent naissance à la galaxie Marilyn, l'auteur nous montre à voir autre chose que la surface de la plus belle femme de tous les temps, simplement une femme. Musée Marilyn, c'est signé Anne Savelli, c'est publié aux éditions Inculte et je vous le recommande chaudement. Voilà pour cette chronique littéraire. Nous allons refermer cette émission en chanson avec toujours Claude Nougaro qui nous chante « Sa fille ». C'est l'un de ses tout premiers succès. C'était en 1963. « Cécile, ma fille ». Et je remercie Thomas qui a réalisé cette émission. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles narrations historiques.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un...